Chers visiteurs, nous vous souhaitons la bienvenue dans l'église des âmes saintes du Purgatoire. Ce guide a été réalisé par l'association Jonathan Livingstone ODV avec le parrainage de la municipalité de Carigny grâce au fonds du plan national de relance et de résilience du ministère de la Culture, inclus dans la mission 1, numérisation, innovation, compétitivité, culture et tourisme, et composante 3, tourisme et culture 4.0. Nous sommes honorés que vous ayez choisi de visiter ce lieu. Nous vous accompagnerons à l'intérieur et vous raconterons son histoire. Choisissez votre langue et profitez de cette expérience exceptionnelle. L'église de Saint-Julien, communément appelée Église des âmes saintes du Purgatoire, en référence à la première construction du XIVe siècle qui n'existe plus, est située à l'intérieur des murs d'enceinte, à proximité du château de Carigny. L'église du Purgatoire a été le siège de l'archevêché ainsi que la matrice jusqu'au XVIe siècle. Elle a été construite entre la fin du XIIIe siècle et le début du XIVe siècle. En 1578, la Compagnie du Nom de Jésus, c'est-à-dire les Jésuites, s'installe dans l'église, puis en 1597, la Confrérie des âmes saintes du Purgatoire, d'où elle tire son nom. L'église a été restaurée en 1797 à l'occasion de la visite pastorale de Mgr Della Torre, qui a accordé à Carigny l'entretien perpétuel de la première paroisse, puis fermée en 1991 pour en préserver l'intégrité. Grâce à deux interventions de restauration, la première en 2001 et la seconde en 2008, le bâtiment sacré a retrouvé aujourd'hui sa splendeur d'antan. Chers visiteurs, nous t'invitons maintenant à entrer dans l'église. L'intérieur de l'église du Purgatoire est richement décoré. Les stucs blancs, qui ornent les murs et les plafonds, se marient harmonieusement avec le sol en marbre noir et blanc, créant une atmosphère solennelle mais accueillante. L'église abrite 6 chapelles et 7 autels, un mélange d'œuvres en marbre et en bois qui témoignent de l'excellent savoir-faire des maîtres sculpteurs et graveurs locaux. En regardant vers la gauche, on trouve la première chapelle. Au centre, au-dessus d'un autel en bois finement décoré, se trouve une toile attribuée à l'artiste Giovanni Patricolo représentant la Vierge Marie tendant l'enfant à Saint Gaétan. Sur cette toile, la scène représente la Vierge Marie vêtue d'un large manteau bleu et d'une robe rouge, tenant l'enfant Jésus dans ses bras. Marie apparaît sereine et douce, dans une attitude maternelle. L'enfant Jésus est représenté avec une aura lumineuse autour de la tête, symbole de sa divinité, et un sourire vif. Il se penche joyeusement vers Saint Gaétan qui l'accueille avec une grande dévotion. Le saint, reconnaissable à son habit sombre typique des théatins, est agenouillé en adoration. Ses mains sont ouvertes dans un geste d'accueil de l'enfant, symbolisant sa foi et son dévouement total à la volonté divine. Le fond est très nuancé et doux, créant un effet de luminosité éthérée qui confère sacralité et solennité à la scène. La composition est équilibrée, la Vierge et l'enfant étant placés en haut et Saint Gaétan en bas, ce qui accentue son attitude d'humilité et de dévotion. Juste après se trouve une chapelle avec un plafond voûté en berceau, au centre de laquelle se trouve un autel en marbre polychrome, surmonté d'un magnifique tabernacle et d'une fresque représentant Marie très sainte des Grâces dans une iconographie traditionnelle de la Vierge à l'enfant, un thème très répandu dans l'art sacré chrétien. La fresque est placée dans un cadre décoré d'or et de marbre. L'image montre la Vierge Marie allaitant l'enfant Jésus, un geste symbolique de nourriture spirituelle et d'amour maternel. La Vierge a une auréole dorée autour de la tête, signe de sa sainteté. Le manteau bleu, symbole de pureté et de royauté, est orné d'une étoile dorée qui représente l'un des plus anciens titres attribués à la Vierge Marie. Stella Maris, traduit par « étoile de la mer ». Cette appellation remonte au 1er siècle du christianisme et a été diffusée par les pères de l'Église, en particulier par Saint Jérôme et Saint Isidore de Séville. La peinture présente une gamme chromatique typique de l'art de la Renaissance ou du Baroque, avec le bleu intense du manteau de la Vierge Marie et le rose de sa robe, des couleurs symboliques qui évoquent la pureté et l'affection maternelle. En levant encore le regard, sur le mur situé au-dessus de la chapelle, on trouve une toile attribuée à Maddalena d'Innocenti qui représente Giuseppe Giusto interprétant les rêves. En continuant à regarder vers la droite, vous vous trouverez face à une troisième chapelle où, au centre, se trouve un autel en bois sur lequel s'élève une magnifique toile également attribuée à Patricolo, représentant saint Antoine le Grand, avec le prophète Élie. Saint Antoine le Grand, considéré comme le père du monachisme chrétien, reçoit dans cette scène l'héritage spirituel du prophète Élie, confirmant la continuité entre l'Ancien et le Nouveau Testament dans la recherche de la sainteté. Saint Antoine le Grand est représenté à gauche, vêtu de la tenue typique des moines anachorètes, c'est-à-dire d'un manteau à capuche marron, semblable à celui des franciscains, et d'une longue barbe blanche. Son expression est de surprise et de révérence, alors qu'il écoute les paroles du prophète Élie. Ses mains sont jointes en signe de prière et de dialogue spirituel. Le prophète Élie, à droite, apparaît comme un ancien ascète, avec un corps maigre et recouvert d'une tunique de peau, typique des représentations du prophète qui a vécu dans le désert. Son bras droit est levé, l'index pointé vers le ciel, indiquant son inspiration divine et sa connexion avec Dieu. En haut à droite, un corbeau porte dans son bec un morceau de pain, une référence claire à l'épisode biblique rapporté dans le premier livre des rois de l'Ancien Testament, dans lequel le prophète Élie, lors de son retrait dans le désert, fut miraculeusement nourri par des corbeaux sur ordre de Dieu. Ce symbole a été repris dans la vie de saint Antoine le Grand, qui, selon la tradition, a reçu de la nourriture dans le désert d'un corbeau alors qu'il vivait en solitaire. La scène se déroule dans un paysage aride, avec une palme en arrière-plan évoquant le désert égyptien, où saint Antoine a vécu en ermite. Le désert est un symbole de la purification de l'âme, de la solitude mystique et de la séparation du monde matériel. Chers visiteurs, je t'invite maintenant à poursuivre la visite vers le maître-autel. Vous vous trouvez devant le maître-autel de l'église des âmes saintes du purgatoire. À votre droite se trouve une précieuse statue en bois de saint Jean-Baptiste datant de la fin du XVIe siècle. Cette sculpture, d'auteur inconnu, est encore aujourd'hui au centre des traditions locales, étant portée en procession chaque année à la fin du mois de juin, à l'occasion de la fête dédiée aux saints. Le maître-autel est construit avec des matériaux précieux combinant marbre et bois, qui créent ensemble un contraste visuel extraordinaire. Le marbre, utilisé pour le parement et les éléments décoratifs, ajoute une sensation de permanence et de solennité. Tandis que le bois sculpté est doré, des parties supérieures apportent chaleur et richesse à l'ensemble. En levant les yeux, encadrés entre deux colonnes à chapiteaux corinthiens et un entablement décoré d'or, on trouve une toile majestueuse attribuée aux frères Antonio et Vincenzo Mano, peintres siciliens actifs entre le XVIIIe et le XIXe siècle. Leur style, fortement influencé par le baroque et le néoclassicisme, se distingue par le caractère dramatique des scènes sacrées et par l'utilisation magistrale de la lumière et des clairs obscurs. La toile représente une scène intense et dramatique de la Trinité et des âmes en purgatoire. La composition suit une structure verticale avec trois niveaux superposés qui suggèrent la relation entre le divin et le monde de l'au-delà. Dans la couche supérieure, Dieu le Père est représenté comme un vieil homme à la longue barbe, vêtu d'un ample manteau. Sa position élevée exprime son rôle de créateur et de juge suprême. Le Saint-Esprit est représenté sous la forme d'une colombe descendant du ciel et rayonnant de lumière, symbole de la grâce divine et de la purification des âmes. Au niveau central, le Christ mort est la figure centrale de la scène, enveloppé dans un linceul et transporté par des anges. Son corps pâle met en évidence la souffrance de la passion, tandis que sa position indique l'offrande du sacrifice rédempteur pour le salut des âmes. Au niveau inférieur, nous trouvons les âmes du purgatoire, représentées avec des expressions de supplication et d'espoir. La lumière divine qui descend d'en haut semble les libérer, soulignant le thème de la miséricorde et de la rédemption. En tournant le regard vers la gauche du maître-autel, on trouve une autre très belle toile représentant le prophète Daniel dans la fosse aux lions. Dans cette scène, tirée du livre de Daniel de l'Ancien Testament, le prophète, injustement condamné, est jeté dans une fosse pleine de lions sur ordre du roi Darius, mais en sort miraculeusement indemne grâce à l'intervention divine. Le prophète Daniel est représenté en bas à droite, vêtu d'une tunique bleue et d'un manteau jaune, symbole de sagesse et de foi. Sa posture, les bras ouverts et le regard tourné vers le haut, expriment un acte de confiance totale en Dieu. Sa tête est entourée d'un halo lumineux qui indique sa sainteté et l'intervention divine en sa faveur. Les lions dans la fosse se trouvent dans la partie inférieure de la scène, représentés dans des poses réalistes et inquiétantes, mais étrangement paisibles. Leur attitude docile met en évidence le miracle. Dieu leur a fermé la bouche pour qu'ils ne fassent pas de mal à Daniel. Dans la partie supérieure, un ange en vol soutient un vieil homme à la longue barbe et vêtu d'un habit vert. C'est le prophète Habacuc qui, selon la tradition, fut miraculeusement transporté de Judée à Babylone pour apporter de la nourriture à Daniel dans la fosse. Habacuc tient un panier rempli de nourriture, signe évident de la providence divine. L'ange a une apparence majestueuse et une pose dynamique, avec ses ailes déployées et son bras tendu vers Daniel, symbolisant l'intervention salvifique. Des éléments symboliques à présent dans la composition font de Daniel un symbole de la foi inébranlable. En effet, malgré l'épreuve, il reste fidèle à Dieu et est récompensé par le salut. Le lion représente l'allégorie des forces maléfiques. Dompté par la puissance divine, il représente la victoire de la foi sur le mal. L'ange et le prophète Habacuc incarnent la providence de Dieu qui n'abandonne pas ses fidèles dans le besoin. En regardant le mur à droite du maître-autel, on trouve une autre toile majestueuse qui complète la trilogie des frères Manot. La toile représente un épisode tiré du deuxième livre des Maccabées, dans lequel Judas Maccabée recueille l'or de ses soldats pour l'envoyer au temple de Jérusalem, afin qu'il soit offert en sacrifice expiatoire pour les péchés des défunts. Ce geste est interprété comme l'un des premiers témoignages de la doctrine du purgatoire, en parfaite harmonie avec la destination de l'œuvre dans l'église des âmes saintes du purgatoire. Judas Maccabée est la figure centrale de la composition, vêtu d'une armure dorée et d'un manteau clair, symbole de sa noblesse et de son rôle de chef militaire. De la main droite, il désigne les prisonniers ou les soldats agenouillés, tandis que de la gauche, il tient un glaive, représentant sa double fonction de guerrier et de guide spirituel du peuple juif. À gauche, en bas, deux hommes ramassent l'or destiné à l'offrande. Leurs expressions sont chargées d'émotion et d'humilité. Derrière Judas, d'autres guerriers armés assistent à la scène dans des poses qui transmettent discipline et dévotion. L'arrière-plan présente un paysage vallonné avec des arbres et un camp militaire, faisant allusion aux campagnes militaires de Judas Maccabée contre les dominateurs hellénistiques. Un grand dais sur la droite rappelle le tabernacle de l'Ancien Testament, soulignant le lien avec le culte juif et le concept de sacrifice. Le ciel clair et dégagé rappelle la dimension spirituelle du geste, suggérant la bienveillance divine. L'or recueilli représente l'offrande expiatoire pour les défunts, une anticipation du concept chrétien de suffrage pour les âmes du purgatoire. Le glaive de Judas est le symbole de sa mission de défenseur de la foi et de son rôle dans l'histoire du salut. Sous la fresque se trouve une porte datant de la Renaissance qui mène à une pièce qui était probablement autrefois reliée au château voisin. La porte est un élément architectural précieux réalisé en bois peint, avec une structure à panneaux géométriques décorés de formes en étoiles et en losanges. Le contraste entre l'ivoire blanc et le bleu pastel, avec des incrustations dorées, suggère une esthétique typique du style baroque sicilien, mais avec d'éventuelles influences de la Renaissance tardive. Les étoiles à huit branches peuvent faire allusion à la symbolique chrétienne de l'étoile du matin, une référence à la Vierge Marie. Le trône doré est une œuvre d'une grande valeur ecclésiastique, probablement destinée à un haut prélat lors des célébrations liturgiques les plus solennelles. La structure en bois doré est finement sculptée de motifs ornementaux baroques. Le dossier haut, surmonté d'une couronne et décoré de poutilles et de rayons dorés, évoque le sens du sacré et de l'autorité spirituelle. Je vous invite maintenant à poursuivre la visite vers les trois chapelles situées sur le mur droit de l'église. Dans la première chapelle, au centre, se trouve un autel surmonté d'une toile attribuée à Giovanni Patricolo. L'œuvre représente un moment significatif de la tradition dominicaine. La Vierge du Rosaire qui remet la couronne du rosaire à Saint Dominique de Guzman, fondateur de l'ordre des prêcheurs. Cet événement est lié à la tradition selon laquelle la Vierge aurait révélé à Saint Dominique la pratique du rosaire comme instrument de prière et de conversion. La scène se déroule dans un contexte mystique, avec l'apparition de la Vierge et de l'enfant sur une nuée qui domine la partie supérieure de la composition, tandis que Saint Dominique est dans une attitude d'humilité et de vénération dans la partie inférieure. La Vierge Marie est assise sur une nuée, vêtue d'un manteau bleu et d'une tunique rouge, couleur symbolique de la pureté et de la charité. De sa main droite, elle présente le rosaire à Saint Dominique, geste qui indique la transmission de la prière mariale. L'enfant Jésus, debout sur les genoux de sa mère, semble participer au geste, regardant Saint Dominique avec bienveillance. Saint Dominique de Guzman, qui porte la robe blanche et le manteau noir, typique des frères dominicains, est représenté agenouillé en train de baiser la couronne du rosaire en signe de dévotion. Juste après, on trouve une chapelle avec un plafond voûté abaissé qui abrite un autel évocateur dédié à la Passion du Christ, avec une statue en bois du crucifié comme élément central. L'ensemble de la structure est richement décoré d'éléments dorés et présente une combinaison harmonieuse de symboles théologiques liés à la rédemption et à la miséricorde divine. La statue en bois du Christ crucifié, d'auteur inconnu, est réalisée avec le visage souffrant de Jésus, les yeux mi-ouverts et la tête inclinée, et rappelle la phase finale de la Passion, soulignant son humanité et son sacrifice pour la rédemption des péchés. Le crucifix en bois sombre se détache sur un fond blanc, entouré de rayons dorés, symbolisant la lumière de la rédemption et la victoire de la croix sur la mort. Des nuages, sculptés avec des têtes de chérubins dorés, enveloppent le crucifix. Une évocation claire de la gloire céleste et de la présence divine qui accueille le Christ au moment de son sacrifice. Le socle de l'autel est recouvert de marbre polychrome avec des détails dorés, reprenant le style baroque sicilien typique. Un petit tabernacle central, avec une porte dorée, est placé sous la croix, probablement destinée à la conservation de l'Eucharistie. En levant encore les yeux, sur le mur, au-dessus de la chapelle, on trouve une toile attribuée à Maddalena d'Innocenti qui représente la patience de Job, un symbole de foi et de patience face à la souffrance. Dans l'art, Job est souvent représenté assis parmi les ruines alors qu'il subit des épreuves douloureuses envoyées par Dieu pour tester sa foi. En regardant vers la droite, vous trouverez une troisième chapelle où se trouve au centre un autel sur lequel est érigée une magnifique toile également attribuée à Giovanni Patricolo, représentant saint Jean-Baptiste. Il est représenté dans son rôle de précurseur du Christ. La toile représente une scène de son ministère de prédication, soulignant son rôle clé dans le Nouveau Testament en tant que celui qui prépare la voie au Sauveur. Saint Jean-Baptiste est représenté dans des vêtements typiques de l'iconographie traditionnelle. Il porte une simple tunique en tissu rugueux, souvent associée à son mode de vie ascétique dans le désert. Le saint est assis sur un rocher et lève le bras droit dans une attitude de prédication, probablement en pointant le ciel, faisant allusion à la venue du Christ. De sa main gauche, il tient le bâton avec le crucifix et la cartouche portant l'inscription « Ecce Agnus Dei », qui signifie « Voici l'agneau de Dieu ». Au pied du saint est représenté un agneau, symbole du Christ, qui rappelle le passage de l'Évangile dans lequel Jean désigne Jésus comme le agneau de Dieu venu ôter les péchés du monde. Autour de Saint Jean se trouvent quelques auditeurs, probablement des disciples ou des personnes qui le suivent, vêtus de vêtements typiques de l'époque biblique. L'expression de leur visage suggère l'attention et l'écoute. Le fond est caractérisé par un paysage naturel avec des arbres et un ciel dégradé, créant une atmosphère mystique et évocatrice. Je vous invite à lever les yeux sur le côté droit où s'ouvre le matronum, où, très probablement, les sœurs du couvent assistaient autrefois aux offices. Chers visiteurs, notre récit s'achève ici. L'association Jonathan Livingstone te remercie d'avoir visité l'église des âmes saintes du Purgatoire.